Sans côté vous parle aujourd'hui dans ce podcast du Saint-Esprit. Qui est-il? Où est-il? Que fait-il? Questions habituelles, bien souvent sans réponse satisfaisante. Tant il nous semble agir mystérieusement, la connaissance du Saint-Esprit fait partie des choses essentielles pour un croyant, disciple du Seigneur Jésus-Christ, né de nouveau et donc enfant de Dieu.
Bonjour, j'espère que vous allez bien tous et chacun. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Dans les précédents podcasts que j'ai réalisés sur cette page de Jalon Vie ou sur la page Facebook, je faisais des vidéos. Je parlais de l'importance du Saint-Esprit dans les églises. Je parlais des églises traditionnelles et de l'importance de revenir à l'Esprit-Saint, comme c'était important pour l'Église naissante. Et donc, les épîtres de Paul et le livre des Actes des Apôtres en témoignent, de même que la finale des quatre évangiles. Alors, Jésus disait à ses disciples dans l'Évangile de Jean, « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et nous pouvons lire cela dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 16. Le Seigneur enseigne que la connaissance du Saint-Esprit est le fruit de notre relation avec lui. Il est avec vous et il sera en vous. Un récit du livre des Actes des Apôtres met en évidence l'importance du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui croient. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse et, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait eu un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Nous pouvons lire ce récit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1. Pour l'apôtre, il était indispensable que ceux qui se convertissaient à Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Aux disciples de l'Église de Corinthe, il posait cette autre question. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Dans la Bible, les passages concernant le Saint-Esprit sont très nombreux et ils nous apprennent que sa présence est le résultat logique d'une foi réelle en Jésus-Christ. Les gens d'Éphèse, dont il est question dans le livre des Actes, chapitre 19, étaient devenus des disciples de Jean-Baptiste à la suite de la prédication d'Apollos. Lui-même, disciple du Baptiste. Nous pouvons lire cela dans le livre des Actes, chapitre 18, versets 24 et 25. Ils ne connaissaient pas Jésus comme leur sauveur et encore moins le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur a annoncé Jésus. Il les a baptisés au nom du Seigneur, après quoi ils reçurent le Saint-Esprit lorsque l'apôtre eut prié pour eux en leur imposant les mains. Il faut en déduire que la seule foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés ouvre la porte de notre cœur au Saint-Esprit qui vient sceller notre vie nouvelle d'enfant de Dieu, comme l'écrit encore l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13, en lui, Christ. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je le rappelle, Éphésiens 1, 13. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père » dans Galates 4, verset 6. Ceci étant établi, efforçons-nous d'entrer plus avant dans la connaissance du Saint-Esprit. Nous commençons par une présentation générale qui sera suivie, je l'espère, d'une série d'études dont chacun s'attarde davantage sur les différents aspects de la nature de l'Esprit de Dieu, de sa présence, de son action, de ses dons, à partir des textes de la Bible. Que le Seigneur ouvre notre cœur et notre intelligence afin que moi-même et ceux qui vont écouter ces études, nous soyons ensemble encouragés, que nous soyons ensemble fortifiés et abondamment bénis par le Dieu de vérité, par le Dieu Tout-Puissant, par le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père Céleste. Que l'Esprit de Dieu inspire et rende accessible à tous ce contenu pour la seule gloire de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'en est-il de la personnalité du Saint-Esprit? C'est une question, peut-être qu'on ne se pose pas souvent, mais on va se la poser et on va trouver les éléments de réponse. Il est possible d'acquérir une connaissance intellectuelle et théologique à son égard, à l'égard de l'Esprit-Saint. Par la lecture des textes bibliques, nous pouvons savoir qui il est. Mais pour une connaissance réelle, pour une connaissance utile, il faut le recevoir, l'Esprit-Saint. Il faut qu'il vienne et lui-même demeurer et vivre en nous, comme l'a dit Jésus en Jean 14, verset 17. La Bible nous fait connaître sa personnalité par les noms qui lui sont donnés, les œuvres qu'il accomplit et les formes diverses sous lesquelles il se manifeste. L'Esprit de Dieu est le nom sous lequel il apparaît pour la première fois au commencement du livre de la Genèse lorsqu'il est à l'œuvre lors de la création du monde. Dans Genèse 1, verset 2, on dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le mot hébreu utilisé ici pour le désigner est « rua » et en français qui signifie « souffle ». On peut donc lire le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible Louis II traduit Genèse 1-2 de cette manière, le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Cette précision nous fait mieux comprendre la façon dont l'Esprit de Dieu mettait en place les éléments du monde comme son action puissante, comme un vent de tempête. Nous réalisons comment le souffle de Dieu a agi sur la masse des eaux qui recouvrait la terre afin de la rassembler pour en faire la mer. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Genèse, chapitre 1, verset 9, si vous allez lire. Il apparaît ensuite lors de la création du premier homme, comme le souffle, le rua de vie. L'Éternel Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devient vivant. Genèse 2, verset 7. Il est important de comprendre que l'Esprit de Dieu est l'auteur direct du processus par lequel Dieu communique la vie. C'est l'Esprit de vie qui donne la vie, qui vivifie et qui ressuscite même. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont les paroles de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 63. Il est souvent appelé l'Esprit de l'Éternel 22 fois dans la Bible, uniquement dans l'Ancien Testament, ou l'Esprit du Seigneur 5 fois, dont 4 dans le Nouveau Testament. Ce nom marque à la fois son origine et sa nature divine, ainsi que sa parfaite union avec le Dieu éternel, unique, créateur et tout-puissant. Il possède tous les attributs divins. On le voit toujours associé à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ, étant aussi nommé l'Esprit de Jésus. Dans Actes 16, verset 7. C'est l'Esprit de Christ, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Fils de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. C'est Paul qui dit ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père » dans Galates. Chapitre 4, verset 6. L'Esprit Saint possède toutes les caractéristiques de la nature de Jésus-Christ. Il lui est si étroitement uni que par le moment, on peut les confondre. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même langue, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Jésus a dit de lui, « Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, vous l'annoncera. » Tout ce que le Père est à moi, et pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dans Jean 16, verset 22. Jésus parle du Saint-Esprit et le présente comme l'autre consolateur, comme un intercesseur, comme un conseiller, comme un aide, révélant la volonté, la nature du Père et du Fils, accomplissant les œuvres de Christ, rappelant ses enseignements et transmettent sa parole, car c'est le Saint-Esprit. Et ce nom qui apparaît le plus souvent dans la Bible souligne son identité personnelle au même titre que le Père et le Fils auquel il est étroitement uni. Il est souverain dans son action. Il opère et distribue ses dons selon sa propre volonté. Premier Épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Il conduit, dirige, ordonne, permet ou ne permet pas. Dans les Actes, chapitre 13, verset 1 à 4, on raconte ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Paul et Silas, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On raconte cela dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 6 à 7. On peut poursuivre les lectures, je vous laisse le soin de le faire personnellement, dans le livre des Actes au chapitre 8, chapitre 9, 10, chapitre 13, 15, 16, 20 et 21. Et on peut attrister l'Esprit-Saint, on peut résister à l'Esprit-Saint, on peut lui mentir, on peut l'outrager, on peut l'éteindre. Et on a des exemples dans Éphésiens 4, verset 30, dans les Actes, chapitre 7, verset 51, dans les Actes, chapitre 5, verset 3, dans Matthieu 12, verset 31, dans Hébreux, chapitre 10, verset 29, et dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 19. Parfois, dans certaines circonstances, dans certains comportements, il se retire. Allez dans Genèse chapitre 6, verset 3, dans Juges chapitre 16, verset 20, dans la première épître du livre de... Non, je reprends, c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 14, Isaïe chapitre 63, verset 10, et dans le psaume 51, au verset 11. Il est présent, l'Esprit-Saint, tout au long des Écritures, qu'il a lui-même inspiré. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Il est l'Esprit-Saint. Il est saint. L'Esprit de sainteté. Dans Romains, chapitre 1, verset 4. Il est important d'être conscient de la sainteté du Saint-Esprit qui nous sanctifie par sa présence. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, Paul va nous dire, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Être saint, c'est être séparé, c'est être mis à part pour Dieu. Comme nous pouvons le lire dans le passage suivant. Ne, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Or, la sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Il agit comme avec son épée, la parole de Dieu, afin de séparer ce qui est vil, de ce qui est précieux, de ce qui est vain, de ce qui est utile, de ce qui est impur, de ce qui est pur. Si nous nous opposons à son action sanctificatrice, nous l'attristons, et si nous nous obstinons, il peut se retirer, comme il le fit avec le roi Saül. Parce qu'il est naturellement saint, il est attristé par notre conduite irresponsable ou mauvaise. Paul va nous le rappeler dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Et voici encore différents noms qui lui sont donnés à l'Esprit-Saint. L'Esprit de vérité, qui conduit dans toute la vérité. Dans Jean 16, verset 13, on dit ceci, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16, 13. Un autre nom, l'Esprit de sagesse, qui communique la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. L'Épître de Jacques va nous dire au chapitre 3, verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, ensuite modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » L'Esprit de force, un autre nom, qui nous communique la force de Dieu. Dans Éphésiens 3, verset 14, on dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Et Paul, l'apôtre, va ajouter dans Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. L'Esprit d'amour, il produit par sa présence en nous son fruit dans Galates 5, 22, l'amour de Dieu qu'il répand dans notre cœur, Romains 5 et 5. Il nous anime de charité dans Colossiens chapitre 1, verset 8. L'esprit de connaissance, il accorde la faculté de connaître les choses de Dieu. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 22, verset 9, va dire « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses de Dieu, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et qu'il révèle par son esprit. » Et encore, il y a l'esprit de révélation. Par lui, Dieu nous révèle sa pensée, Dieu nous révèle ses desseins, sa volonté, les choses qui concernent son royaume, car l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres versets qu'il serait bon de partager. Mais je crois que je vais le faire dans un autre podcast. Et finalement, je voudrais finir avec, je voudrais aborder le fait de connaître l'Esprit-Saint finalement par sa présence. Et je sais que depuis le tout début que vous écoutez, il y a beaucoup de versets et que peut-être vous allez réécouter pour prendre tout en note. Je sais que le rédacteur du texte a fait beaucoup de recherches au niveau des versets bibliques, des passages bibliques, pour justement l'Esprit Saint, c'est très bien documenté, et la parole de Dieu est faite pour être lue, pour être sondée, pour être scrutée, et vous avez l'instrument pour le faire, pour bien connaître l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint n'est pas seulement une théorie que l'Église traditionnelle a bien voulu nous transmettre, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec des théories de l'Esprit Saint si nous ne le mettons pas en pratique? J'ai commencé le podcast en vous relatant que Paul était quasiment découragé, même scandalisé du fait que des apôtres, des gens qui avaient connu Jésus, qui avaient été baptisés, ne connaissaient pas l'Esprit Saint. Mais que pour aller plus loin dans la mission, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ, il faut connaître l'Esprit Saint. Alors, de connaître l'Esprit Saint par sa présence, la Bible permet de savoir qui est le Saint-Esprit. Quel est son rôle dans son association avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ? Mais il est essentiel de vivre ce que la parole de Dieu nous fait connaître. La connaissance biblique est très utile à condition qu'elle conduise à la vie. Or, le Saint-Esprit communique la vie, sa vie, la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ. Et il le fait par sa présence en nous. Jésus parle de l'Esprit comme de l'eau qui jaillit en fleuve de vie. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Dans Jean 7, 37. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Le prophète Ézéchiel va décrire comment ce fleuve apporte la vie partout où il pénètre. Dans Ézéchiel 47, 8. Et il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Alors, dans Ézéchiel 47, 12 va dire: Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne va pas se flétrir, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils le mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Dans Ézéchiel 47, 12. Lorsque nous prenons conscience de la personnalité du Saint-Esprit, nous réalisons combien sa présence et son aide sont précieuses dans notre vie de chaque jour et quelle grâce merveilleuse Dieu nous fait en l'envoyant en nous. Et moi, je prierai le Père qu'il vous donne un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, versets 16 à 17. Alors, prions pour terminer ce propos. Père qui es dans les cieux, toi qui nous as donné ton Fils Jésus, qui a purifié nos cœurs par son sang, tu nous as promis le Saint-Esprit, et toi tu nous l'as accordé. Révèle-moi sa présence, sa merveilleuse. Fais-moi grandir dans sa connaissance et instruis-moi. et instruis-moi pour que je vive chaque jour dans une véritable relation avec lui, une réelle communion, afin qu'il communique tout ce qui est à toi, à ton Fils Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen.